Catulmendès est fait sans cause. Je crois bien qu'il y a des ombres qui ne sont les ombres de rien. Je crois aussi que l'on peut voir dans les glaces des reflets qui ne sont les reflets de rien. Pourquoi l'ombre et le reflet n'existeraient-ils pas par eux-mêmes? Parce que les noms dont on les désigne impliquent qu'ils n'ont pas de personnalité première, et non seulement, mais sont seulement des images d'êtres de choses. Mais c'est un raisonnement médiocre. Les mots peuvent se tromper. De même qu'il y a des personnes mal nommées, des lâches qui s'appellent Achille, des catins qui s'appellent Marie. Il y a peut-être des objets qui ont d'incomplètes ou même d'absurdes représentations verbales. Les vocabulaires ne sont pas infaillibles. D'ailleurs, remarquez-le, si pour l'expression de toutes les substances, de toutes les qualités, de tout ce qui existe, nous pouvons en rapporter uniquement aux syllabes écrites ou parlées, qu'arriverait-il de notre raison le jour où quelque académicien élu souverain universel du monde est un peu troublé par cette exaltation soudaine, s'aviserait de déclarer que jusqu'à la première minute de son omnipotence, les langages humains s'étaient radicalement trompés, justement parce qu'il semblait suivre une loi et que désormais le parfait hasard serait la seule correspondance logique entre les sens et le son préféré par la voix ou figuré par l'écriture. Puis, ayant découpé un à un tous les mots du dictionnaire, d'une part, et de l'autre, toutes les définitions que le dictionnaire en donne, ayant mis celle-ci dans un sac, celle-ci dans un autre sac, et faisant tirer comme au sort par la personne la plus innocente de la société, soit un vaudevilliste absolument ignorant des lexiques et des syntaxes, d'un sac un mot et de l'autre une définition, déclarerait incontestable la nouvelle association de l'idée et du terme. Sans doute, nous ne serions pas d'abord d'être un peu inquiets, comme les gens qui changent d'appartement meublé, mais nous serions guère, nous taillés fort communément, un autre nouveau garni. Admettons même que par quelques rencontres antithétiques de la loterie, les éternelles choses, les éternelles pensées, les éternels événements et sentiments fussent dorénavant exprimés par le vocabulaire qui n'a guère en exprimé la courbure contraire précisément, comme un changement de rien du tout, au trait que tu viens de la réalité, ni de nos rêves, oui, ni de nos passions. Et si indigestion signifiait bon appétit, n'en serions pas moins affamés de pain, de viande et différentes choses que l'on sert à l'heure du déjeuner ou à dîner. Nous rêverions encore si, à idéal, c'était substitué ordure. C'est avec une infinie tendresse que, tombant à genoux devant la seule qui nous soit chère à jamais, nous lui dirions « Je te hais ». Il ne faudra donc pas attacher une trop grande importance aux mots eux-mêmes. Je vous l'ai déjà dit, il y a des ombres du néant et il y a des reflets de non-être. Je le crois, du moins. Mais je vous conterai à ce propos deux histoires qui sont assez singulières pour une troisième histoire plus étrange encore. Une fois que je me promenais la nuit le long d'un fleuve d'acier très sombre, sans déchirure de noyade d'étoiles entre les beaux peupliers pareils à des poteaux noirs, je vis sur l'eau un géant étendue avec une couronne de pierreries légères, comme s'il lui était tombé au front la fusée d'une fête foraine. Tout de suite, j'eus peur. Oh, je suis très enclin à la peur. C'est parce que ma mère, quand j'étais petit, me couchait dans une chambre sans lumière. Alors je veillais au milieu des ténèbres, glacé de sueur, en une épouvante de quoi ? Du jour peut-être ? De sorte que j'eus toujours peur, toujours grand peur. Mais je raisonnais, comme on dit. Voyons, pensais-je, il est impossible qu'un géant couronné de pierre soit couché sur l'eau de Bougival à l'île de Croissy. Il y a ici une espèce de mirage, ou bien c'est le reflet dans l'eau de quelques tourelles de villa, avec celle des lampes de table où l'on prend le café. Très méticuleux comme je suis, je regardais derrière moi, à gauche puis à droite, et je découvris rien qui eût une réelle ressemblance de géant étendu sur la scène. D'ailleurs, il était évanoui. Il avait été là, cependant. Et j'ai souvent pensé à ce vaste corps sombre, le front lumineux, espèce d'énorme et mystérieux macabé. L'autre histoire date d'un voyage que je fis en Bretagne avec Villiers de l'Isle-Adam. Nous étions partis ensemble pour aller rendre visite à un parent qu'il avait dans une bourgade marine. Un curé que Villiers appelait l'oncle Victor. L'oncle nous reçut très courtoisement dans son presbytère, masure très vaste, près de la petite église. Il fut convenu que je coucherais dans une chambre au premier, où il n'y avait qu'un lit, une chaise et un petit miroir de bonne, acheté à quelque foire, sur la cheminée de bois peinte de jaspe de marbre. Il faut que je dise ceci. J'avais ce jour-là l'esprit assez disposé aux terreurs de la merveille, parce que Villiers, au dessert, m'avait raconté l'aventure d'un chat en ce même presbytère, précisément. Comme Villiers, après un jour de chasse, retournait dans la grande cuisine, il vit, parmi le crépuscule, le petit chat maigre du curé, sans poils, tout petit, si maigre, un chat très vieux, très désolé, un squelette de chat, assis sur un derrière, sans derrière, sous la haute cheminée sombre, devant le miroir, et le rouge de deux tisons en croix. Et Villiers, étant entré lentement, sans faire de bruit, et le chat, le triste chat, était seul, ou du moins se croyait seul, devant la croix des trois tisons. De sorte que, renonçant à la discrétion muette dont, pour ne sais quelle raison, depuis tant d'âge, les animaux font preuve devant les hommes, le chat lamentable ouvrit sa petite gueule et bâilla encore, et dit « Oh, que je m'ennuie !» Mais tout à coup, ayant aperçu Villiers, il s'était échappé comme honteux d'être surpris en flagrant délit de parole. Je songeais encore, presque ironique, pas tout à fait, à cette aventure lorsque j'entrais dans la chambre au premier étage du presbytère. En levant le bougeoir, je vis le lit, je vis la chaise, et dans un petit tiroir sur la cheminée, je vis un chat maigre, pelé, si pauvre. Bon, me dis-je, pour me rassurer. Je ne répète, personne plus que moi n'est enclin à la peur. C'est le chat dont Villiers m'a parlé, bien sûr. Il ne va pas me dire que je m'ennuie. D'abord, c'est parce que les chats ne parlent point, et puis parce que ce ne serait pas poli devant un hôte. Il doit être sur quelque meuble. Et je vis son reflet dans la glace. Mais il n'y avait pas d'autre meuble que le lit et la chaise. Même ayant regardé, cherché, fureté partout, je ne découvris aucun chat. Pourtant, dans la glace, il y en avait un. Je me plaçai devant le miroir. Le reflet de mon corps cachait la bête, mais dès que je m'écartais, soit à droite, soit à gauche, je voyais le reflet du chat, chat qui n'existait point. Oh, j'étais vraiment fort malade d'épouvante. Mais comme je m'acharnais jamais à l'explication du mystère et que je préfère m'y soumettre en frissonnant, j'allais vite vers le lit et l'ayant atteint, soufflais la bougie et me couchais très vite. Plus d'une fois, avant le sommeil, il me sembla voir dans la maison et dans le miroir de bonne, plus haut que la cheminée de bois marbré, l'étincellement d'une agate ouverte. Et j'ai eu depuis des insomnies en songeant à cette image de chat, son chat. Mais il faut que je me hâte de voir ou raconter la troisième histoire. Je serais bien obligé de reconnaître, l'ayant lu, que souvent l'extraordinaire se produit pour le seul plaisir d'être extraordinaire. Nous voici bien loin de la Bretagne, pays que hantent les légendes. J'avais manqué un après-midi le train pour Chatou. Je dus passer la nuit à l'hôtel Terminus. À peine couché, entre le téléphone et le cadre où sont peinturlurées les conditions aller-retour d'un voyage à Londres, je vis une forme assise dans le fauteuil tout près du lit. Une forme à la forme manque-forte, à la fois anguleuse et vague, l'air d'un spectre sous les longs plis d'un voile blême. Tremblant d'ailleurs à cause de ma peur accoutumé, mais fort expert en des choses appelées surnaturelles, je n'hésitais point à deviner que c'était un revenant. À coup sûr, la forme se fut relevée, j'aurais entendu un bruit de ferraille, mais elle ne se leva pas. Alarmé, mais poli, « Qui êtes-vous ? » demandai-je. Un revenant, dit la forme. Oh, j'aurais juré. Et je repris. Oh, sans nul doute, vous êtes le spectre de quelque pauvre homme qui fut assassiné dans cette chambre. Oh, loin de moi la pensée de désapprouver que vous reveniez ici en espoir de tourmenter votre assassin, demeurez peut-être inconnu. Mais je vous ferai remarquer que j'exerce au journal les fonctions de poète lyrique et de critique dramatique, lesquelles, d'ordinaire, s'allient mal avec celles d'escarpe. Je ne suis donc pas votre meurtrier. Mais si vous voulez bien reconnaître que, résolu à payer ma nuitée, j'ai le droit de dormir paisiblement, sans fantôme, en cette chambre. Et la forme dit, « Vous m'étonnez. Quoi ? Vous pensez que je suis naguère un assassiné ? Ici, oh non, point du tout. Jamais on ne commet de crime dans la maison où vous voici voyageur et où me voici spectre. Mais j'exerce ma profession. Il y a ainsi que dans le monde surnaturel, monde réel, des fonctions spéciales dans le monde surnaturel. Je suis revenant, de même qu'on est employé au ministère ou troisième rôle au théâtre de la République. Je n'ai pas du tout besoin d'avoir été victime pour être vengeur. Je tire les draps d'infiniment de gens qui ils ne furent pour rien dans aucun linceul. À bien voir les choses, je ne reviens pas, je viens. Je suis un mort qui n'a jamais vécu. Et puisque nous sommes près de la gare Saint-Lazare, un retour qui ne fut jamais un aller, cela m'empêche pas d'être formidable et d'agiter des bruits sinistres que vous prenez tous à l'heure pour l'enchantement du train d'Asnières, l'ébranlement du train d'Asnières, revenant, lui. C'est notre différence. Oui, monsieur, il y a des apparitions de vivants jamais apparus, des Hamlet pères qu'on empoisonna point, des Banco morts qui ne furent point des Banco vivants. La providentielle loi dont vous ne savez rien nous emploie à l'épouvante des criminels. Mais quand il n'y a pas de criminels, nous nous montrons comme s'il y en avait. Tels les sergents de ville se promènent déjà dans les quartiers où il n'y a pas encore d'attaque nocturne. Cependant, si ma présence vous gêne, je consentirai volontiers à aller exercer mon métier de revenant dans l'appartement voisin. J'en fus d'accord avec empressement. Le revenant s'évanouit et je dormis fort bien. Mais mon réveil garda la certitude que, terrible, charmant, farce même, le mystère n'a pas besoin de cause.